Est-ce que le nom d'Abdias vous dit quelque chose? C'est pas courant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, c'est un prophète de l'Éternel. À part cette information, nous ne savons rien de lui, et tout ce qu'il nous a laissé est un ouvrage minuscule, qui ne compte que 21 versets. Aucun des livres historiques de l'Ancien Testament ne le mentionne, et il est passé totalement sous silence par les autres auteurs du Nouveau Testament. Il existe au moins 12 personnages de l'Ancien Testament qui ont pour nom Abdias, mais c'est alors un nom courant. On a essayé de l'identifier à l'individu de ce nom qui est envoyé avec plusieurs autres par le roi Josaphat pour enseigner la loi aux villes de Juda. Le texte dit « La troisième année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques-uns de ses hauts fonctionnaires, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Miché pour enseigner les habitants. Mais bien que séduisante, cette possibilité n'obtient pas parce que le texte l'aurait désigné comme Abdias le prophète et non pas Abdias tout court. Tout au plus, nous pouvons supposer avec quelque certitude qu'il est de la tribu de Juda parce qu'il a les Édomites dans son collimateur à cause de leur conduite exécrable envers Jérusalem et ses habitants. Le message d'Abdias est le plus court de tous ceux qu'on a coutume d'appeler les petits prophètes, une appellation qu'ils ont reçue à cause de la petite taille de leurs livres, comparée à celui d'Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Pourtant, malgré la brièveté de leurs prophéties, aucun de ces petits prophètes ne fait figure de volcan éteint. Au contraire, ce sont des fournaises qui crachent le feu et leurs prophéties ont une lave incandescente. Avec Habacuc, Agée et Malachie, Abdias fait partie d'un groupe de 4 prophètes dont nous ne savons strictement rien, sinon qu'ils ont prophétisé et écrit leurs prophéties au nom de l'Éternel. On pourrait aussi leur ajouter Joël, qui nous donne seulement le nom de son père. Ces hommes sont des porte-paroles, ou des porte-plumes, ou encore des écrivains fantômes qui se cachent derrière les oracles de l'Éternel. Abdias est donc un illustre inconnu qui parle très brièvement, et soucieux de conserver son anonymat, il ne nous fournit pas le moindre indice qui permette de le situer dans l'histoire. Pourtant, Abdias est important à plus d'un égard, car il est le premier et l'un des premiers de tous les prophètes écrivains à nous laisser une trace écrite de ses révélations. De plus, sa prophétie annonce, en 2 volets, que sous forme réduite l'essentiel des messages de tous les autres prophètes. Il prédit en effet, d'une part, le jugement des nations païennes qui oppriment Israël, et d'autre part, la grâce de Dieu envers son peuple. Ces 2 grands fils conducteurs tissent les écrits de tous les prophètes. Le nom d'Abdias signifie « serviteur de l'Éternel ». Et c'est bien ce qu'il est. Celui qui est au service d'un autre ne se met pas en avant, ne parle pas de lui, de sa famille, d'où il vient, ni de ses exploits qu'il a faits. Abdias annonce la ruine d'Édom, peuple descendant d'Ésaü, frère jumeau de Jacob, l'ancêtre fondateur d'Israël. Les Édomites seront jugés pour avoir tiré profit de la détresse de Juda, pour s'être livré à des actes de violence contre ce peuple frère, alors que celui-ci est terrassé par ses ennemis qui envahissent Jérusalem. La plupart des croyants ne connaissent pas Abdias, parce qu'ils ne comprennent pas en quoi il les concerne. C'est dommage, car ce livre contient plusieurs enseignements fondamentaux. En effet, la ruine d'Édom annonce ce qui arrivera à la fin des temps, quand Dieu anéantira toutes les puissances du monde qui lui sont hostiles pour les remplacer par le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans. Deuxièmement, Abias nous explique comment Dieu juge. Il nous rappelle que chacun d'entre nous devra rendre des comptes à Dieu qui nous jugera en fonction de sa justice. Ce n'est pas un sujet très agréable à évoquer, mais il vaut mieux se préparer à rencontrer son Créateur que de jouer la politique de l'autruche. Les Écritures enseignent que l'Éternel est un Dieu sévère, qui se venge de ses ennemis et qu'il a prouvé maintes fois, et en particulier en anéantissant totalement la race d'Ésaü. Et pour faire bien passer ce message, le jugement d'Édom est mentionné dans plus de livres de l'Ancien Testament, 8 fois que toute autre nation. En troisième lieu, le livre d'Abdias s'adresse directement à nous parce qu'il expose les conséquences de l'orgueil et l'arrogance, le sentiment grisant de supériorité que ressentent les despotes quand ils abusent d'autrui et exploitent honteusement les plus faibles. Aux yeux de Dieu, ces péchés sont certainement parmi les plus graves qui soient. Le livre d'Abdias illustre bien, à l'échelle d'une nation, le proverbe qui dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute ». En ce qui concerne la date de la prophétie d'Abdias, les opinions des spécialistes divergent beaucoup. On envisage souvent Abdias comme contemporain du prophète Jérémie, témoin comme lui de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens sous le règne de Nebuchadnezzar. Quelques théologiens le placent encore plus près de nous, sous la domination des Perses ou sous l'un des successeurs d'Alexandre le Grand. D'autres, enfin, lui assignent l'une des premières places en date des prophètes écrivains, ce qui fait qu'il existe un écart de presque 6 siècles entre les opinions extrêmes. Pour déterminer avec le plus d'exactitude possible la date du ministère d'Abdias, il faut faire un peu d'histoire afin d'identifier de quel sac de Jérusalem il s'agit quand il dit à la nation d'Édom « Tu étais présent ce jour où des étrangers emportaient ses richesses » lorsque des étrangers pénétrèrent dans la sainte ville et en tirant au sort se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Au dire d'Abdias, Jérusalem est aussi conquise, ses défenseurs exilés et ses habitants vendus comme esclaves. Cependant, il ne dit pas que la ville sainte est entièrement détruite. Et il ne mentionne pas la destruction du temple. Quant au peuple de Juda, il occupe toujours son pays. Dans l'Ancien Testament, on lit que Jérusalem a été investie à 4 reprises par des puissances étrangères. La première fois, ça a eu lieu sous le règne de Roboam, fils de Salomon, roi de Juda. Dans le premier livre des rois, on lit « La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, vint attaquer Jérusalem. Il s'empara des trésors du temple de l'Éternel et de ceux du palais royal. Il prit absolument tout, notamment tous les boucliers d'or que Salomon avait fait faire. Comme à cette époque, les Édomites sont soumis à Juda. Ils n'ont pas pu faire partie des assaillants. De plus, cette incursion égyptienne est très limitée et uniquement pour but de s'emparer des trésors légendaires que le roi Salomon avait amassés. Il ne semble pas qu'au moment de cette attaque égyptienne, il y ait eu une déportation ou une mise en esclavage des habitants de la ville sainte. La 2e fois que Jérusalem fut investie eut lieu sous le règne de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. À partir d'environ 854 avant Jésus-Christ, Joram est co-régent et assiste son père dans l'exercice de leur royauté. 5 ans plus tard, en 849, la 5e année de Joram, roi d'Israël, il règne seul. Mais à peine est-il solidement établi sur le trône qu'il se met à observer des coutumes païennes bien rodées en tuant tous ses frères et certains chefs de Juda. Il faut dire que sa femme est la fille d'Acab et de Jézabel, un couple maudit qui règne sur Israël Nord et que cette reine est l'une des pires femmes que le monde ait connues. Telle mère, telle fille. Cette dernière entraîne son mari, Yoram, à s'adonner aux formes d'idolâtrie les plus grossières. L'abandon de l'Éternel par le roi de Juda entraîne des jugements de Dieu sur le pays, comme cela s'était déjà produit sous d'autres souverains fidèles. En effet, dans le second livre des Chroniques, on lit « L'Éternel excita contre Yoram l'hostilité des Philistins et des Arabes voisins des Éthiopiens. Ils attaquèrent Juda, envahirent le pays, emportèrent toutes les richesses accumulées dans le palais du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes en captivité. » On sait aussi qu'à cette même époque, les Édomites, qui étaient jusqu'alors vassaux de Juda, se soulevèrent et que Yoram ne peut pas les empêcher de devenir indépendants. Même si le texte des Chroniques ne mentionne pas les Édomites parmi les pillards, il ne fait guère de doute qu'ils sont inclus dans le terme générique « les Arabes », car pour attaquer Juda, les Arabes étaient obligés de traverser le territoire d'Édom. On peut donc être certain que les Édomites, qui viennent tout juste de secouer le joug de Juda, soient ravis de saisir cette occasion de se joindre au massacre des habitants de Jérusalem. Après ces événements, on transmet au roi Yoram un écrit du prophète Élie qui stigmatise son apostasie et sa méchanceté, et qui le menace d'une maladie mortelle. Finalement, comme Yoram refuse de se repentir de ses mauvaises actions, il est atteint d'une sorte de dysenterie dont il souffre pendant 2 ans. Avant de mourir, dans d'atroces souffrances et sans être regretté par quiconque. La troisième fois que Jérusalem est investie par des ennemis a eu lieu sous le règne d'Amasia, roi de Juda, qui dans un excès d'orgueil provoque Joas, roi d'Israël. Dans le second livre des rois, on lit « Alors, Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les deux rois s'affrontèrent à Ben-Shamesh, au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Shamel, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amasias, roi du Juda. Il se rendit à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 185 mètres. Depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle, il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. Cette guerre entre les deux royaumes frères ne peut être la catastrophe dont parle Abdias, parce que ce dernier appelle les ennemis des étrangers, et décrit une calamité bien plus grave que celle qui a eu lieu au moment du conflit fratricide. La quatrième attaque contre Jérusalem est menée par les Babyloniens, qui détruisent entièrement la ville et le temple et emmènent la plupart des habitants de Juda en captivité. Seuls quelques pauvres bougres sont alors autorisés à rester au pays afin qu'ils ne tombent pas en friche, et surtout pour invoquer la faveur des divinités du lieu sur les nouveaux patrons, l'époque. C'est du moins le raisonnement et la façon d'agir habituelle des despotes idolâtres de l'époque. On sait qu'à cette occasion, les Édomites participent à la destruction de Jérusalem par Babylone, car dans le psaume 137, le psalmiste écrit « Souviens-toi, Éternel, des Édomites, qui en ce jour du malheur de Jérusalem criaient bien fort « Rasez-la donc, rasez-la jusqu'aux fondations !» Pourtant, Abdias n'aurait certainement pas manqué de rappeler ces paroles cruelles s'il parlait de la fin du royaume de Juda aux mains des Babyloniens. Les descriptions de l'invasion à laquelle il fait référence ne concordent pas avec la terrible catastrophe que subit la ville sainte à ce moment-là, car Abdias ne les mentionne pas et ne décrit pas une destruction complète de Jérusalem. De plus, il ne fait aucune allusion à la fin politique du royaume de Juda. Comparé aux paroles du prophète Jérémie et Ézéchiel, la description d'Adios est plutôt légère. Il parle de pillage ordinaire, comme celui qui se fait alors couramment dans les guerres locales, sans pour cela qu'il y ait ruine totale du pays. De plus, Abias mentionne des fuyards massacrés, alors que, pendant le siège de Jérusalem par les Babyloniens, personne ne peut s'échapper sinon le roi et quelques-uns de sa cour, mais s'ils sont rapidement capturés. Finalement, lors du sac dont parle Abias, les prisonniers sont exilés au nord, en Phénicie, et à l'ouest pour être vendus aux Grecs, alors que les Babyloniens déportent la population de Juda chez eux, à l'est, en Orient. La description du sac de Jérusalem que fait Abdias est des plus brèves, et on aurait aimé en savoir davantage, car on peut être sûr que lors de cette incursion, d'autres personnes que les membres de la famille royale sont emmenées captives. De plus, si le palais royal est investi, il est quasi certain que la ville de Jérusalem et ses habitants ont aussi souffert de cette invasion. Abias n'est pas le seul à faire état du sac de Jérusalem sous le roi Joram. Le prophète Amos y fait référence également quand il parle des crimes commis par les Philistins, les Phéniciens et les Édomites. Je lis le passage. L'Éternel dit ceci. Gaza a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont déporté des prisonniers en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. L'Éternel dit ceci. Tyr a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont livré à Édom, des déportés en masse. Ils ont fait aucun cas du traité de fraternité qui les liait au peuple frère. L'Éternel dit ceci. Édom a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car il a poursuivi le peuple frère avec l'épée, en étouffant toute pitié, et il n'a pas cessé de le meurtrir avec colère et de nourrir sans fin sa haine invétérée. Le prophète Joël aussi parle de cette même invasion de Jérusalem quand il écrit. Ils se sont partagés en les tirant au sort les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils ont bu. Et vous, Tyr et Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous vous venger de moi ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Vous avez dérobé mon argent et mon or, vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans votre temple, et vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites aux Grecs, pour qu'ils soient éloignés de leur pays. À cause de ces atrocités, Joël prophétise contre l'Égypte et les Édomites et dit « L'Égypte deviendra une désolation et Édom un désert à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. » Tout bien considéré, le sac de Jérusalem, que mentionne Abdias, ne peut être que celui qui a lieu sous la royauté de Joram, entre 854 et 842, et aux mains des Philistins et des Arabes accompagnés des Édomites. Maintenant que l'on sait de quel sac de Jérusalem parle Abdias, il faut encore déterminer la date de la rédaction de la prophétie. En effet, il est clair qu'il parle d'un événement passé quand, s'adressant aux Édomites et aux nations païennes, des versets 11 à 16, il écrit « Car tu étais présent ce jour où des étrangers emportaient ses richesses lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville et, en tirant au sort, se partageaient entre eux les butins de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu as agi comme eux. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis seront anéanties. » Oui, mais entre ces deux versets 11 et 16, la grammaire du texte hébreu nous oblige à traduire par un présent. Oui, mais dans la bouche d'un prophète, ce présent devient un futur prophétique. En d'autres mots, Abdias voit des actions en progrès, ce que les Édomites feront ou veulent faire. Pour cette raison, en trois versets, il leur adresse huit injonctions pressantes afin de les avertir de ne pas répéter les actions pendables qu'ils ont commises sous le règne de Joram. Je lis ces injonctions. N'arrête pas tes regards sur le jour de ton frère, le jour de son infortune. Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple au jour de son désastre. N'arrête pas tes regards toi aussi sur son malheur au jour de son désastre. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de son désastre. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses rescapés et ne livre pas ses survivants au jour de la détresse. » Puis Abdias conclut en disant « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, ta rétribution retombera sur ta tête. » Qu'est-ce qu'Abdias veut dire? Il est prophète de l'Éternel, et en tant que tel, il voit l'avenir. Alors que l'invasion de Jérusalem par les Philistins, les Arabes et les Édomites est encore fraîche dans les mémoires, Abdias reçoit une vision de la détresse à venir de Jérusalem quand les Babyloniens rayeront de la carte le royaume de Juda. Au vu de la haine fratricide que les Édomites portent aux Israélites et la façon dont ils ont récemment agi, Abdias les avertit et leur enjoint de ne pas commettre des actes malveillants semblables à ceux qu'ils ont perpétrés alors que Joram est roi de Juda, de ne pas les répéter quand, dans un peu moins de trois siècles, Jérusalem sera laminée par Babylone. Puis, suite à cette catastrophe, plus loin encore dans le temps, Abdias entrevoit le jour de l'Éternel avec le jugement des nations dont Édom est le prototype. La colère divine que subiront les Édomites frappera alors tous les ennemis de Dieu.